c'était nos chars en vikings contre les tigres d'Orifant qui libéraient la flèche côté en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de royal mentor. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous faisait goûter la framboise en main dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Enfin, les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM pour l'émission Musique en lutte. Ce mois-ci, nous recevons Guillaume Heuguet, cofondateur de la maison d'édition Audimat. Les éditions Audimat publie des textes critiques, sensibles et politiques, des contre-récits de l'esthétique sauvage. Voici donc l'entretien que nous avons réalisé la semaine dernière. Nous sommes donc avec Guillaume Heuguet pour cette nouvelle émission. Bonjour Guillaume.
Salut.
Merci d'être avec nous. Avec toi, nous allons donc parler essentiellement de la revue Audimat, également maison d'édition. Tu as récemment sorti un article sur cette revue, tu as aussi sorti un bouquin récemment. On va parler de tout ça.
Ok.
Je vais te présenter brièvement. Déjà, donc, on peut dire que tu as été donc, pigiste et, chez Trax Magazine.
Ouais.
Critique, j'imagine, on peut dire aussi.
Ouais, j'ai fait ça quelques années, ouais, carrément.
Ok. Ensuite, tu as cofondé Audimat. Et que dire de plus, tu es maintenant professeur aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand.
C'est ça.
En actualité des médias ou
actualité des... de l'art.
De l'art. C'est un domaine qui a quoi de particulier ?
Bah en fait, je pense que c'est une manière pour en fait chaque école un peu peut préciser un peu à l'intérieur des disciplines existantes ce qu'elle souhaite qu'on enseigne. Et donc la discipline un peu globale administrative, c'est l'histoire de l'art. Mais je pense qu'à Clermont, on s'intéresse un peu plus à ce qui peut aller au-delà du champ strict de l'art contemporain ou à des formes de pensée, d'écriture ou de création émergente. Donc c'est, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu insister sur l'actualité de l'art.
Ok. Et enfin, tu es aussi DJ techno ou as été?
Ah, je suis plus du tout. Ouais. Hein, ouais, mais j'ai fait ça pendant quelques années. Ouais, il y a un moment maintenant, mais c'est vrai que ça a été un truc important. Ouais.
Ouais. Et tu as d'ailleurs monté un label qui s'est arrêté récemment.
Ouais, j'ai monté un label, pareil, je pense qu'il y a à peu près en même temps qu'Audimat, en fait, en 2012, avec un copain qui faisait de la musique et qui fait encore de la musique sous le nom de Mondcop. Un label qui s'appelle In Paradisum et qui, depuis 2-3 ans, est devenu une coopérative avec les artistes français qui sortaient des sur le label.
Ok. Très bien, on va entamer les premiers sujets. On va commencer par parler principalement de Audimat, revue et qui est devenue plus récemment une maison d'édition.
Ouais.
Il y a d'autres. Il n'y a pas que la revue Audimat dessus maintenant, vous avez rajouté.
Ouais, on a deux autres revues, ouais.
Ouais. Aussi quelques livres qui sont sortis récemment. Bref, tu peux nous dire comment s'est construit ce projet qui est parti donc d'une revue jusqu'à...
Bah, je pense que c'est un projet qui est né à travers la rencontre d'abord avec Étienne Menu qui est quelqu'un qui a une dizaine d'années de plus que moi, qui était pigiste déjà dans la presse magazine et qui en fait était créait beaucoup sur la House de Chicago, écoutait beaucoup de musique différente en fait, et on... Et on participait un peu au même forum, donc on s'est repérés comme ça. Et puis un jour, il m'a invité à boire un coup et on a commencé à parler de ce qu'on lisait. Et on s'est aperçu qu'on lisait beaucoup de livres qui n'étaient pas traduits en français. Par exemple, la première fois qu'on s'est vu, on parlait du livre de Tim Lawrence sur l'histoire de l'underground disco à New York qui va paraître chez nous l'année prochaine. Et d'articles qu'on lisait dans des médias comme le New Yorker, mais aussi des fanzines. En fait, c'est lui qui m'a parlé, je pense, à l'époque, tout de suite, de Rat Charge pour la première fois. Donc, je sais que tu l'as reçu dans ton émission. C'était un peu l'objet de nos premières conversations. En fait, on parlait de tout ce qu'on lisait sur la musique ou au-delà, qui nous paraissait excitant et qu'on n'arrivait pas forcément à retrouver en français. Et donc, un jour, en fait, on faisait une émission de radio sur Radio Campus. On passait pas mal de Chicago House, de disco, mais aussi de la musique expérimentale, etc., du rap. Et on avait un peu cette petite frustration. Moi, je commençais à écrire dans la presse magazine, comme pigiste aussi. Et on n'arrivait pas trop à sortir de la logique de l'actualité, du portrait, un peu le côté guide de consommation. Donc on avait un peu cette frustration. Et je sais plus trop d'où c'est venu, mais moi, je me suis dit qu'il fallait faire une revue. J'ai rencontré un gars un jour dans un appartement dont on m'a dit: ah oui, bah en fait il est éditeur, il travaille pour ce truc qui s'appelle Les Presses du Réel. En fait, c'était un curateur super connu qui s'appelait Eric Troncy. Et en fait, bah du coup on discutait, je lui dis: mais en fait moi j'aimerais bien faire une revue sur la musique qui parle de musique un peu autrement. Je lui explique un peu le truc, il me dit: bah ouais, faut absolument faire ça. Écris à mon associé, et puis voilà, mais c'est une super idée et tout. Donc j'ai écrit à son associé, qui m'a dit: oui, bah c'est super, il faut juste ramener 30 000 euros de publicité. Et en fait, bah moi j'étais rien que d'écrire déjà avec le rythme magazine et tout, c'était déjà le truc dont je voulais m'échapper, quoi. Donc le fait de devenir chef de pub en plus, ça me branchait vraiment pas. Et donc du coup, je restais un peu avec cette idée comme ça sur les bras. Et en fait, Étienne, il connaissait Samuel Aubert, qui était le programmateur du festival toulousain Les Siestes électroniques, qui s'appelle Les Siestes maintenant. Et il lui en a parlé, et en fait Samuel lui disait: bah en fait nous en fait on gère assez bien notre budget, donc en fait tous les ans on arrive à avoir 3000 euros de trésorerie, enfin voilà, qu'on n'a pas dépensé. Si vous voulez, en fait on vous les prête pour faire un numéro, on voit ce qui se passe, quoi. Et donc on a fait un premier numéro comme ça, parce que lui aussi, bah, je pense comme pas mal de gens qui sont dans la scène musicale, ils disaient qu'il n'y avait pas forcément assez de réflexion critique sur la musique, sur les scènes et tout ça. Et donc il avait, en fait, ça l'intéressait qu'il y ait un projet qui lui amène les textes en français pour réfléchir même à la manière dont il programmait, des choses comme ça, pour se déplacer un peu. Et donc on a fait un numéro zéro, qui a tout de suite été, je pense, à 1000 exemplaires, un truc comme ça, qui a tout de suite été épuisé, en fait.
Et comment se passe la distribution ?
En fait, on a fait de l'autodistribution, c'est-à-dire qu'on est allé voir tous les disquaires, les libraires qu'on pouvait, en leur disant: bah voilà, il y a ce truc-là qui existe, qu'est-ce que vous en pensez ? Au début, il n'y en a pas beaucoup qui... Il y en a quelques-uns qui l'ont pris, mais on se prenait quand même pas mal de vent, quoi. Mais en fait, on a insisté, on a fait ça genre pendant 10 ans, et ça a été vraiment... C'était un peu troublant, en fait, parce que je me souviens, genre les 4-5 premières années, on pouvait vraiment aller dans les librairies et se faire un peu mal recevoir des fois. D'autres super qui disaient: bah ouais, c'est du dépôt, pas de problème, on essaye, on voit. Mais des fois, il y avait vraiment une méfiance. Et en fait, j'ai vu ça évoluer au fil du temps, vraiment à force d'insistance, pour passer dans la même librairie 6 mois après. Et puis peut-être la personne en face avait changé, et puis il était de meilleure humeur ou elle était de meilleure humeur ce jour-là. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, où là, franchement, c'est un des trucs qui est super de faire la maison d'édition, c'est qu'on sent que les libraires aiment ce qu'on fait, qu'elles ont envie de le défendre et tout, et ça a beaucoup changé la dynamique. Après, maintenant, on a un distributeur, un diffuseur et tout, mais on a beaucoup fait d'autodistribution. Ouais, c'est Obo Makassar, ouais, carrément.
Okay. Qu'est-ce que ça a changé, du coup, voilà, dans cette manière d'être distribué ou représenté ?
Bah, le truc, c'est que, en fait, on est arrivé chez Obo, je pense, quand on avait un ou deux, ouais, bah, avec notre premier bouquin, en fait, parce qu'on se disait qu'on pouvait pas forcément distribuer un bouquin nous-mêmes, une revue, oui. Mais un bouquin, on se disait que ça allait être plus compliqué. Et en fait, ça nous a permis de libérer du temps pour faire les livres, dans le sens où vraiment, quand la revue a commencé à bien marcher, des fois ça pouvait nous arriver de passer une semaine à vraiment faire le tour de Paris, et puis deux semaines après, si ça s'était vendu, il fallait y retourner, faire tous les points de vente. Et donc, en fait, on est plusieurs dans l'équipe, Samuel l'a fait, moi je l'ai fait, Il y a Fanny Vautier qui travaillait avec nous à un moment qui l'a fait, et là maintenant c'est OL qui fait ça. Et en fait, on s'est tous et toutes un peu cassé le dos, quoi. Enfin, vraiment à porter des gros sacs dans le métro et tout. Et donc là, il y a toujours un peu ça pour OL, je pense, mais au moins on peut se concentrer sur. Sur les réseaux qui ne sont pas les réseaux habituels de librairie de Hobo. Et ça nous permet de dégager du temps pour faire les livres, quoi. Et ouais, de passer un peu plus de temps sur les textes, sur la revue, quoi.
Ok. Je mets une question un peu bateau, mais quelles difficultés vous rencontrez encore aujourd'hui et comment vous y faites face?
Ouais, bah là, je pense que la principale difficulté, en fait, il y a deux trucs. C'est que la revue, en fait, au début, quand on n'était pas avec un distributeur, en fait, on la finissait, on la sortait. Et du coup, il y avait un rythme qu'on se fixait nous-mêmes. Et là, tu vois, quand un Audimat sort en librairie, ça fait, en général, ça fait 6 mois que le sommaire est déterminé. Et ça fait 3 mois que j'ai fini de relire les textes et tout ça. Donc ça fait travailler vachement à l'avance. Et aussi, et on doit annoncer des dates, donc du coup on doit toujours tenir un calendrier qu'on a annoncé nous-mêmes. Et donc on passe pas mal de temps avec Samuel qui m'aide un peu plus sur la côté coordination, administration et tout, à voir comment on fait pour justement pas se retrouver dans une logique de travail un peu con, comme si on était comme si on bossait pour un gros éditeur, quoi, alors que là on fait quand même les choses à très peu et nous-mêmes, donc pour qu'on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment gérer ce calendrier pour faire les choses bien, pas nous épuiser nous-mêmes, tenir nos délais quand même et tout ça. Donc ça, c'est une des difficultés. Et l'autre difficulté, c'est que quand on a lancé la maison d'édition, on se disait que c'était assez ambitieux, mais que avec un certain type de projection, on se disait c'est cool, on va pouvoir faire tourner ça, quoi, en payant tout le monde, tout ça. Et en fait, le prix du papier a genre pris 30% ces dernières années. Et donc en fait, moi je veux toujours bien payer les auteurices ou les traductrices. Pour moi-même ça puisse être un boulot, dans le sens où en fait je pourrais pas y consacrer le même temps de la même manière si je prenais pas ça comme une activité. Je pense que je ferais beaucoup moins de choses, donc ça s'étalerait beaucoup plus dans le temps. Et en fait, donc le truc, c'est de faire en sorte que, et je pense qu'on a tous et tout envie là dans l'équipe que ça soit un projet dans la durée qui puisse participer à créer ou à soutenir certains auteurs ou autrices qui pourraient pas faire de livres sinon. Et donc notre truc, c'est vraiment d'essayer de voir comment on arrive avec ce truc de coût du papier à faire en sorte qu'on arrive à signer et à soutenir les projets qu'on a envie de faire sans se ruiner et sans se mettre dans la merde nous-mêmes. Enfin, c'est des trucs assez classiques, en fait.
Ouais. Parce que du coup, c'est une association.
Ouais, c'est une association. Ouais. C'est une association qui salarie plusieurs personnes à des niveaux très différents. C'est-à-dire que c'est en train de se reconfigurer, mais en gros il y avait une personne qui bossait pour les siestes aussi, avec qui on mutualisait son activité pour les siestes et son activité pour Audimat, et qui faisait pas mal d'illustrations pareil pour la promo. Et il y a moi qui suis vraiment éditeur à fond, quoi, et plus d'argent sur le poste d'édition qui me revient à moi. Et Samuel, il fait ça en plus de son boulot. On a Music Journal, où il y a quelqu'un qui est Loïc Conceau, qui s'occupe d'un média qui est quasiment un quotidien en ligne. Et OL, qui est rémunéré pour l'autodistribution sur un mode de mission. Enfin, il y a tout ça, quoi. Mais c'est une association, mais du coup, avec un fonctionnement, avec quand même des salaires. Voilà.
Ok. Bah, du coup, toi qui t'occupes de... qui est du coup l'éditeur peut-être principal de... comment se passe la sélection des articles, et du coup peut-être comment du coup s'élabore une revue par rapport à ça?
Ouais, bah, je pense que au début on s'est beaucoup appuyé avec Étienne, avec qui je faisais la revue au début. Maintenant je suis un peu plus tout seul, je travaille avec d'autres personnes qui m'aident plus à un endroit d'édition que de, on va dire, de sélection et de ligne éditoriale, même si elle participe aussi. Avec Étienne, en fait, on s'est beaucoup appuyé sur les gens qu'on lisait et qu'on croisait dans les scènes, quoi. Donc, on a beaucoup fait écrire d'autres journalistes au départ. Et ensuite, ça s'est pas mal... Il y a eu toute une période, en fait, on avait un peu du mal à commander des textes ou à trouver des choses en français. Donc, il faut dire qu'Audimat, quand même, c'est une rare revue où il y a énormément de traductions par rapport à ce aux revues françaises d'habitude. Parce que normalement, avec l'économie d'une revue, c'est compliqué quoi, de faire beaucoup de traductions. Et donc, mais nous, ça, c'est un truc qu'on a quand même beaucoup fait. Et donc, pour les articles en français un peu plus aujourd'hui, ça fonctionne de plein de manières différentes. Souvent, ce qui se passe, c'est que je lis un texte d'une personne dont je me dis, tiens, j'aime bien son style ou j'aime bien sa manière de réfléchir, et je me demande si elle s'intéresse à la musique. Ou alors, je vois que quelqu'un est très spécialiste d'une scène et pas forcément quelqu'un qui a beaucoup l'habitude d'écrire, et on réfléchit ensemble, on fait des premiers tests et tout pour voir à quoi ça pourrait ressembler un article d'IMAT. Et souvent, on a des échanges en fait sur qu'est-ce que je cherche moi quand je demande un article pour Audimat en particulier. Et donc souvent c'est d'articuler la musique avec des dimensions politiques, ou c'est de pouvoir décrire assez précisément le son, ça peut être de faire des histoires de scènes, en fait, ou la généalogie d'une forme. Enfin, il y a tout un tas d'angles comme ça qu'on a un peu développé avec la revue, que je pense qu'ils sont assez spécifiques, enfin que j'ai tendance à pas lire ailleurs. Et donc du coup, à partir d'éléments préalables comme ça, un texte, une sensibilité chez quelqu'un, ou une conversation, je rencontre quelqu'un qui me parle d'un genre musical, je me dis, ah ouais, moi je connaissais pas du tout ces trucs-là, il y a vraiment un truc à faire, ou qu'il l'approche d'une certaine manière. Par exemple, au tout début, là c'est un peu abstrait, mais pour prendre un exemple, dans un des premiers numéros d'Audimat, on l'a remis là dans l'anthologie, mais il y a un article que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Quelques idées reçues sur l'histoire de la house », et c'est un copain qui écrivait un tout petit peu des chroniques de temps en temps, mais qui s'était pas spécialisé là-dedans plus que ça, qui en fait a trouvé le bouquin d'un DJ des débuts de la house de Chicago, qui montre qu'il y a eu énormément d'erreurs sur les clubs où ça a démarré, même sur le style de vie des personnes, et que en fait l'histoire avait été un peu réécrite a posteriori par des journalistes anglais en laissant de côté toute une partie de l'histoire de la house de Chicago. Et notamment la partie un peu moins cool d'un point de vue subculturel, c'est-à-dire hétérosexuel et commercial. Mmh. Et du coup il a proposé un article là-dessus. Et voilà, moi j'avais jamais rencontré quelqu'un qui connaissait tout ça aussi bien. Donc souvent ça se passe un peu comme ça. Après, il y a aussi, ça bouge en permanence, et je crois que c'est ce qui nous intéresse pas mal dans Audimat aussi, c'est de se demander qu'est-ce que ça peut être l'écriture sur la musique. Et donc à chaque numéro, de se déplacer un peu, d'imaginer des nouvelles manières de le faire. Il y a un moment donné, arrivé l'histoire orale, par exemple, on ne faisait pas trop d'histoire orale. On a rencontré quelqu'un qui connaissait vachement bien les tout débuts du funk, avant que ça devienne... les tout débuts du funk français, avec les débuts du rap dans le funk français, etc. Et en fait, c'est vraiment un truc qui était devenu une petite niche de collectionneurs. Et en fait, alors même que... les disques commençaient à être très chers et tout ça, en fait on n'avait pas beaucoup d'infos sur ce qui s'était passé historiquement, donc il allait voir tout le monde. Ça peut être pas mal de choses différentes. Là aussi, ce qui se passe pour les bouquins un peu plus, c'est que c'est des personnes qui me présentent d'autres personnes. Donc Jeanne-Sophie, qui travaillait avec nous, elle a rencontré Rhoda parce qu'elle faisait une table ronde sur les questions de genre dans les musiques actuelles. Et donc Rhoda Chokkem, qui était journaliste, est venue parler de ça. Et en fait, on a découvert à cette occasion que c'était une nerd incroyable du R&B français. Mmh. Et donc, on lui a. Et en fait, en parallèle de ça, elle avait une émission sur les questions, identité noire en France, questions postcoloniales. Et elle avait écrit avec un collectif qui s'appelle Piment, elle a écrit un truc qui s'appelle le lexique du petit dérangeur. J'espère que je n'écorche pas le nom. Et donc, du coup, on s'est dit, mais ça va être génial, une approche de quelqu'un qui a déjà un pied dans des questions d'antiracisme et tout sur le R&B français. Donc, on fait un livre avec elle, et là, elle m'a présenté deux, trois autres personnes qui avaient des projets qui nous semblent hyper pertinents. Donc, je commence à discuter avec d'autres personnes, d'autres projets comme ça, par rencontre avec les autoristes qui ont déjà publié pour Audimat.
De manière un peu organique, du coup, de faire les choses.
Ouais.
Et c'est marrant parce que, du coup, souvent, vous avez différents articles qui parlent du même sujet, mais du coup, voilà, avec différentes approches. Mmh. Et vous pouvez pas vraiment de...
Oui, il y a ça. En fait, on a des obsessions, des fois. Mmh. En fait, comme, par exemple, les rapports entre musique et autonomie politique, ou la question... il y a des choses sur la question de la résistance dans la musique de manière générale, enfin qu'est-ce qui... Et c'est vrai que souvent on reprend la même question sous un angle différent à quelques numéros d'écart.
C'est bien, la réflexion du coup est vivante et
ouais.
Se remet en question elle-même aussi. Et c'est...
Carrément, mais c'est vraiment ça. En fait, moi je commande les articles aussi pour répondre aux problèmes qui se posent pour moi comme amateur de musique, quoi. Et donc souvent, ça m'arrive d'aller voir des gens avec des problématiques un peu déjà faites en leur disant, j'essaie de trouver un exemple. Par exemple, là dans le dernier numéro, il y a un truc sur le rapport, sur le côté hyper répétitif du disco et la question de pourquoi en fait il y a un rapport à la sexualité particulier dans le disco et comment le disco a pu soutenir ça, etc. Et en fait, souvent il y a des discours sur le disco, mais en fait on comprend jamais pourquoi cette musique là en particulier et comment ça marche. Enfin, qu'est-ce qui fait que cette musique on lui attribue ses qualités et pourquoi elle était si importante pour les gays à New York et puis ensuite en France évidemment. Et est-ce qu'on peut décrire ça en analysant la musique? Enfin, est-ce qu'il y a un rapport à la musique elle-même à ça, ou est-ce que c'est juste un truc un peu de hasard historique? Et donc, des fois, j'ai un peu ces questions dans un coin de la tête et je trouve un texte anglais qui y répond. Et des fois, je vais proposer à une personne que je rencontre qui m'a l'air un peu bien placée pour le faire, d'en parler. C'était aussi le cas, par exemple, Olivier Cheval, à qui j'avais proposé d'écrire. Il m'avait proposé d'écrire sur la variété française et en fait, moi j'avais ce truc en tête où je ne savais pas décrire un espèce de sentiment un peu bizarre de nostalgie, mais quelque chose un peu plus précis que la nostalgie que j'avais quand j'écoutais certains morceaux. Et en fait, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit « bah ouais, moi j'appelle ça l'impuissance ou l'impotentiel, le fait qu'il y a toujours quelque chose qui aurait pu se passer et qui ne s'est pas produit, et c'est un peu différent de la nostalgie », et il en parle hyper bien. Et donc c'est... ouais, des fois c'est ça, c'est une problématique et puis qui va revenir. Et c'est vrai qu'en plus, il y a aussi l'idée qu'il y a plein de problèmes critiques et politiques qui se posent dans la musique, mais moi j'ai pas de réponse, moi j'ai pas une position claire sur tous les sujets. Je sais qu'il y a des positions que je rejette, je sais qu'il y a des tendances qui m'intéressent plus que d'autres, mais j'ai besoin en fait de faire écrire différentes personnes pour pouvoir faire progresser ma réflexion sur ce sujet-là. Et donc du coup, le travail de commande d'articles pour Audimat, c'est aussi pour moi une manière d'approfondir ma réflexion critique ou politique à travers le petit monde que constitue la musique en particulier.
Ok, sans doute tu as déjà répondu là, mais c'est vrai que là, une des choses aussi hyper remarquable dans le travail qui est réalisé à Audimat, c'est que vous arrivez à mettre des fois sur le même plan des niches, vraiment des micro-scènes, et soit en les comparant, ou soit avec plein de manières différentes, les mettre au même niveau que des scènes plus classiques, et de la même manière. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait le plus marqué et intéressé, c'est vraiment à quel point vous glissez du populaire à l'intellectuel, quoi. Généralement, souvent, les critiques musicales sont trop intellectuelles ou trop populaires. Mmh. Vous avez ce glissement hyper intéressant. Donc peut-être tu peux rajouter quelques idées sur comment vous vous y prenez pour réaliser ça.
Ouais, en fait, c'est un truc, c'est vraiment... je pense même le format de la revue, il dit quelque chose de ça, quoi. Et c'est vraiment une obsession depuis le début. Je pense que, honnêtement, c'est aussi lié à notre situation. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense à ma situation personnelle, quoi, d'avoir toujours été un peu exposé à des milieux très différents, en fait, d'avoir grandi avec des gens qui écoutaient du rap toute la journée, et puis en même temps d'avoir fréquenté des bibliothèques publiques assez jeunes et tout. Et donc, y a ça, hein, y a un truc un peu passif, mais il y a aussi le fait, je pense pas de vouloir réconcilier les trucs, mais justement d'être un peu sensible aux formes de violence symbolique. Et en même temps d'être sensible au fait que dans les milieux populaires et dans les cultures populaires, il y a toujours, pour moi, il y a une intensité de savoir et de penser et tout qui est mal connue, mal reconnue des milieux, on va dire, dominants. En fait, je pense qu'au tout début d'Audimat, un truc dont on parlait beaucoup avec Étienne, c'était à quel point les intellos venaient faire les touristes dans les musiques populaires pour écrire sur la techno ou sur le rap, pour un peu se mettre en valeur ou s'encanailler. et on supportait pas trop ça. Et on cherche une genre de troisième voie qui montre qu'il y a déjà vachement d'intelligence chez les amateurs, les amatrices de musique, qu'ils aient un rapport avec l'écriture ou pas. Et on peut faire valoir ça. Alors c'est pas toujours facile parce que des fois, en fait, on s'est dirigé. En même temps, on aime bien les formes essais qui sont des trucs un peu longs, qui demandent pas mal de travail et tout ça. Et la revue, elle est devenue un peu ce truc format livre qui sort tous les 6 mois. Donc on cherche à avoir des textes un peu qui demandent parfois pas mal de travail. Donc ça peut exclure des personnes qui n'ont pas forcément matériellement le temps, autant de temps à accorder à un truc aussi mal payé. Et puis même nous, en fait, en termes d'aller-retour et tout, pour être précis, ça demande pas mal de boulot. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel on tient pas mal, donc dans l'écriture, mais aussi, c'est vrai, dans le rapport à la musique. Et ça, c'est un truc qui nous a aussi souvent paru français, de se dire, ah bah voilà, il y a vraiment une opposition. Enfin, c'est ce truc, je sais pas, moi, je très bourdieusien, quoi. Genre, comme s'il y avait des frontières étanches entre les modes de consommation, les objets culturels et tout. Et c'est un truc qu'on voyait beaucoup moins en Angleterre, en fait, où déjà il y a pas mal de gens qui viennent de classes populaires, prolo, qui ont eu des parcours de vie compliqués et tout, qui peuvent devenir des stars de la musique populaire, quoi. Alors que en France, dans les charts, c'est, en fait, quand on regarde, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et aussi, il y a un peu un truc, il y a un rapport un peu intellectuel à la musique. Enfin, il faut voir ce qu'on met par intellectuel, mais par exemple, nous, c'est vrai qu'on a pas mal traduit Mark Fisher, et Mark Fisher, il parle souvent de comment The Fall, il parle à la fois, enfin, Marquis Smith, il parle à la fois de sa classe sociale, et en même temps, c'est super littéraire, son écriture, et du coup, il n'y a pas d'opposition entre le fait d'avoir des formes assez sophistiquées et en même temps d'avoir une position de classe, de pas être un bourgeois. Donc, c'est vrai que c'est un truc auquel on tient pas mal. Après, c'est toujours compliqué quand on fait des bouquins en librairie et tout ça, de s'assurer qu'il n'y a pas un effet. Et puis moi, en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'écrivais beaucoup sur des forums ou des blogs. Et à un moment donné, j'ai fait des études universitaires longues. Et donc des fois, selon les personnes avec qui je parle, là, on était à Lyon, à un salon qui s'appelait Paper Melody. Et c'était marrant parce que du coup, j'avais un peu amené ce sujet. Et il y avait des gens qui disaient, bah ouais, vous êtes super élitiste, c'est pas forcément hyper accessible et tout. Et puis il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas l'air d'avoir fait d'être forcément beaucoup plus dans un truc d'études supérieures, etc. Qui disaient, non, en fait, voilà, moi je lis pas beaucoup et tout, mais je lis les notes avec plaisir et tout. C'est un peu rassurant, mais pour nous, c'est toujours un enjeu, quoi. C'est pas un truc qui est réglé. Je suis content que tu dises que justement on arrive à concilier les deux, mais pour nous, c'est un truc où, en fait, c'est tellement un truc qui s'impose à nous, cette séparation entre le populaire, le légitime, ou entre les moyens d'accès à l'écriture et tout, qu'en fait on essaie de faire des efforts pour transformer ça, mais le format même de la revue fait que c'est pas forcément toujours facile, quoi.
Ouais, l'objet même du bouquin.
Voilà, côté bouquin, long texte, ouais.
C'est marrant d'en parler. En fait, vous êtes beaucoup inspiré, j'ai l'impression, quand même, des cultural studies, qui est une approche britannique ou anglaise, d'études des sons et des cultures. Je sais pas, on peut dire que c'est un peu une sociologie anglaise, voilà, des médias, des arts, des esthétiques. Tu parlais, ouais, il y a Mark Fisher, il y a Simon Reynolds. Du coup, vous en avez fait d'ailleurs des traductions,
ouais,
de bouquins hyper intéressants qu'on vous conseille. Je sais pas, il y avait un équivalent en France ou il n'y en avait pas, et c'est pour ça que vous êtes venu ou...
Moi, franchement, ma théorie, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent en France aux cultural studies, mais parce que c'est pas juste une sociologie des arts, de la culture et tout. C'est un mouvement historique, intellectuel, qui est lié à un moment très particulier et à différentes influences. En fait, moi, j'ai découvert ça sur le tard. C'est-à-dire, spontanément, je pense que à mon échelle, j'ai fait un peu le même genre de mouvement, de manière très confuse et tout, que faisaient ces intellectuels. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, c'est des gens qui étaient plutôt fils ou filles d'ouvriers, d'ouvrières. Enfin, en tout cas, la première génération des cultural studies. Ou alors qu'il y avait des solidarités de classe avec le monde, enfin avec les classes populaires, quoi, et qui du coup se sont retrouvés à l'université dans des champs de littérature hyper snob et élitiste, parce qu'il y a vachement le truc de l'aristocratie anglaise, de la culture nationaliste, bourgeoise et tout. Et du coup, qu'on essayait de... Et en fait, ils venaient aussi, ils avaient traversé, il y a eu des grèves, il y a eu des mouvements de lutte sociale assez forts, et puis ils se retrouvent à la fac. Et donc, du coup, il y a deux mouvements, c'est qui sont énoncés, par exemple, par Stuart Hall, qui est un peu un une des figures fondatrices des Cultural Studies, c'est de dire, en fait, on a fait un repli dans le champ intellectuel de ce qu'on était en train de perdre dans les luttes sociales. Donc, en fait, on s'est dit, bah, en fait, on n'a plus d'appui, là, pour les luttes sociales. Donc, et puis, nous, on a commencé être un peu plus dans une pratique de lecture et d'écriture. Donc en fait, on va reconstruire, on va poser les bases intellectuelles pour que le mouvement puisse redémarrer. Donc c'est un peu comme ça que dit Stuart Hall. Et puis après, c'était aussi des contradictions personnelles, quoi. Enfin, une manière de gérer des contradictions personnelles. Par exemple, Richard Hogarth, il arrive à avoir une bourse d'études qui fait qu'il est la première personne de sa famille à faire des études longues, quoi. Et en fait, il se sert de ça pour aller revoir les gens avec qui il a grandi et parler de leur relation aux chansons ou à la littérature et tout ça. Mais du coup, il le fait pas du tout comme Bourdieu, qui est un peu va mesurer, qui se dit un peu au service des classes dominées, comme il dit et tout, mais qui s'identifie quand même bien à une institution de savoir. Il le fait comme quelqu'un qui a à la fois un pied dans la fac et en même temps qui parle de sa famille, quoi. Et donc, du coup, les Cultural Studies, ça représente, je pense, une espèce de groupe de gens qui traversent, en fait, en gros, qui chopent les outils intellectuels de l'université et tout ça, mais dont les affects et le rapport au monde restent attachés à là d'où ils viennent, qui n'est pas, en fait, la fac. Et voilà, moi, c'est un truc qui me parle vachement. Je pense qu'intuitivement, je cherchais un truc comme ça. Je me sentais pas hyper bien à l'université, assez longtemps, et en fait créer Audim, et de la même manière je me sentais pas trop bien dans la presse magazine, faut dire, mais encore plus à la fac. Enfin, il y a des trucs qui me frustraient beaucoup, et le fait d'avoir un endroit comme Audimat où on puisse avoir une culture intellectuelle sans qu'elle soit soumise aux intérêts même culturels, enfin aux affinités, aux préférences de gens qui n'ont pas eu la même vie que nous, bah voilà, pour moi c'était un truc après voilà, c'est des trucs, je sais pas, ça c'est toujours compliqué, ça dépend des personnes avec qui on travaille aussi, enfin je pense que... Mais il y a un peu cette envie-là, en tout cas, de créer un espace qui n'est pas un espace institutionnel, disciplinaire, et qui est un espace où on peut avoir un rapport au savoir un peu plus libre et vivant, quoi.
Ok.
Et maintenant, marquons une courte pause en écoutant le morceau de Reflex, The Politics of Dancing, sorti en 1983. Ce morceau est cité dans l'article Disco et discipline dans le dernier numéro de la revue Audimat.
I heard it on the airwaves.
Alors, on va parler de ton dernier article paru dans le dernier numéro de Audimat, qui s'intitule « Musique de jeunes, conflits générationnels et politique du temps ». Alors, vu comme ça, c'est un gros pavé. Mais voilà, c'est vraiment, tu soulèves une problématique, voire plusieurs, hyper intéressantes. Et dans un premier temps, tu peux sans doute nous résumer, du coup, où sont les conflits générationnels dont tu parles ?
Ouais, bah en fait, le truc, c'est, je sais pas si toi, t'as été témoin de ça, mais enfin, moi, ça fait quelques années que je vois tout le temps, dans les milieux musique ou dans les discussions sur la musique en ligne et tout, je vois le truc genre boomer ou, ou genre ça, c'est un truc de millennial et tout. Et en fait. Et en fait, le truc qui est super bizarre, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on voit immédiatement ce que ça veut dire et qu'il y a un truc, c'est très clair. Et c'est un peu, c'est comme Bobo, tu vois, ça marche bien. En fait, on voit, c'est efficace. Et en même temps, je me dis, ouais, c'est bizarre. Il y a un truc un peu louche là-dedans. On disait pas trop ça avant. Et donc en fait, je me suis demandé, est-ce qu'il y a vraiment un rapport différent à la musique quand t'es boomer ou millennial, de genre là. Qu'ils appellent génération Y ou génération Z. Et enfin, ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'avais déjà publié un article de Dan DiPiero qui parlait un peu d'effet de génération. Il parlait des étudiants américains qui avaient connu la dette et ils disaient qu'ils ont un rapport particulier à la musique parce qu'ils veulent que ça soit tout de suite à fond et que ça s'arrête jamais. Parce qu'en fait, parce que c'est trop angoissant, voilà, et qu'ils sont dans une temporalité particulière avec ce truc de remboursement de la dette. Et en fait, d'un côté, je trouvais ces idées passionnantes, et en même temps, je me disais, ah ouais, mais ça marche juste pour les étudiantes américaines qui vont à l'université, quoi. Enfin, ça concerne pas tout le monde, ce truc d'endettement avec les études supérieures et tout. Et donc, je m'étais déjà dit, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un truc où la génération remplace la classe ? Donc, il y a un peu cette question que j'avais en tête. Et après, l'autre truc un peu plus simple, c'est qu'en fait, bah, moi, les théoriciens ou théoriciennes que je publie, c'est quand même des gens, on va dire, qui ont un lien très fort à la génération, enfin, à l'idée de contre-culture, et à des générations qui sont construites autour de l'idée de contre-culture. Et je dois dire, même moi, dans ma trajectoire, je me souviens très bien quand j'étais au lycée et que j'étais dans les musiques électroniques, c'était. Il y avait un rapport, il y avait l'idée que l'underground, c'était le bien. Et que le mainstream c'était le mal, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai vu ce truc shifter au point où ça s'est complètement renversé. Moi, ça m'a toujours troublé la manière dont on pouvait passer d'une hypervalorisation de la contre-culture à limite un truc où c'était vu comme un truc ringard. Et en fait, c'est revenu j'ai eu des discussions avec des étudiants et des étudiantes à l'école d'art. Et aussi des gens un peu plus âgés comme ça qui m'ont dit des fois un peu à demi-mot quoi, mais bah en fait arrêtez de nous parler de contre-culture quoi, nous c'est pas notre problème, enfin sous-entendu on est déjà un peu on est trop dans la survie pour avoir ce truc d'afficher des valeurs. Et donc voilà, donc il y avait tout ce truc sur la contre-culture, est-ce que c'est un truc de génération et tout qui me faisait réfléchir. Et donc du coup cet article, comme tu dis, qui fait plein de problématiques à la fois, un des premiers trucs, c'était de se dire, bon, bah, ok, si on regarde, est-ce que la contre-culture, effectivement, c'est un truc générationnel et est-ce qu'il y a des rapports entre la génération et la classe Et plus généralement, en fait, qu'est-ce qui se passe si on arrête d'associer les musiques populaires à, en gros, ce récit des jeunes qui inventent une culture différente et qui se libèrent, qui libèrent leurs désirs, voilà. En fait, est-ce qu'on peut avoir une vision différente de ça si on regarde ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire ? Et donc, du coup, j'ai repris un peu les bouquins historiques de la contre-culture, et puis j'ai regardé les gens qui avaient un peu réfléchi sur qu'est-ce qui s'était vraiment passé, pour voir dans quelle mesure c'était pas effectivement un discours d'auto-héroïsation ou d'auto-féchitisation d'une génération en particulier qui avait fait un modèle selon lequel la musique populaire c'était forcément une musique de jeunes. C'est un peu de ça dont je parle dans l'article.
Oui, voilà, il y a des éléments qui pourraient tendre vers comme quoi il y a eu un conflit, ou en tout cas il y a eu un tournant qui s'est opéré peut-être autour des années 90 entre voilà, deux générations, on va dire, mais qui aussi n'ont pas eu ou vécu dans les mêmes contextes. Mmh. j'ai pu remarquer, ou enfin il est remarquable en tout cas, qu'une génération qui nous est antérieure et qui était plus hédoniste et qui avait peut-être une culture qui se voulait plus libre de faire ce qu'elle veut, et que peut-être maintenant il y a plus, c'est plus exactement la même situation. Un peu compliqué à expliquer, mais disons que maintenant il y a d'autres problématiques pour les générations de maintenant qui sont peut-être qui subissent plus la société telle qu'elle est et qui ont moins le choix, ou en tout cas qui prennent d'autres décisions.
En tout cas là, ouais, c'est vrai que dans l'article, une des choses qui est mise en avant, c'est que la définition historique de la contre-culture, ou même des musiques populaires comme musique de jeunes, donc tout ce qui va avec tous les documentaires qu'on voit, toutes les traces un peu historiques qu'on voit sur le Summer of Love, tout le mouvement autour du rock, puis du punk, etc. En fait, c'est quand même souvent associé à une jeunesse blanche, de classe moyenne ou supérieure et tout ça. Donc il y a des exceptions nationales et aussi il y a des exceptions de manière générale, mais c'est vrai que le truc, c'est que cette histoire, elle a été écrite par les personnes qui étaient dans cette position, et donc du coup ça, c'est un peu je pense que faire cet article pour moi, c'était aussi prendre conscience du fait que ce discours très généralisant sur l'idée qu'il y aurait toute une génération qui aurait vécu un rapport à la musique de libération du désir, etc., en fait ça concernait quand même ça concernait quand même un groupe à la fois quantitativement assez large, mais qui en fait était lui-même symboliquement central, parce qu'en fait c'était aussi ça que même les entreprises avaient envie de mettre en avant comme représentation, et donc ça allait avec le développement de la culture de la consommation, etc. Donc le premier truc, c'était de relativiser ce discours, et de se dire que ce discours, il venait un peu des mêmes pôles, quoi, ou des mêmes groupes de personnes, et de voir aussi, et ensuite de nuancer ça en montrant que moi, les gens que je publie, qui sont quand même Mark Fisher ou Simon Reynolds, en fait, ils appartiennent pas à la génération des boomers, mais à la génération qu'on appelait génération X, qui vient juste après. Et en fait, c'est des gens qui sont déjà un peu, qui ont déjà raté un truc par rapport à ce qu'on a vendu comme utopie contre-culturelle. Et donc, du coup, ils sont dans un entre-deux. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont déjà connu la désillusion. Enfin, ils sont témoins de la désillusion de la génération précédente, et en même temps, ils ont encore accès à cet idéal sous une forme un peu intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'ils voient les gens juste un peu plus âgés qu'eux ou elles, qui peuvent leur transmettre cette expérience, quoi. C'était de montrer, en fait, c'était pouvoir resituer les discours de personnes qui, du coup, défendent une forme de rapport au refus, à la contre-culture, et du coup aussi à la critique politique en lien avec la culture de manière générale, en montrant qu'ils sont dans cette position ambivalente, de savoir qu'il y avait une forme d'idéalisation, qu'on leur avait survendu le truc, et qu'en même temps, ces personnes, elles y étaient attachées, y compris pour des bonnes raisons, quoi.
Ouais, survendu, c'est peut-être bien le mot, effectivement, et c'est pour quoi ils veulent se réapproprier, d'ailleurs, cette idée de contre-culture. Mais c'est un peu l'œuf ou la poule, j'ai l'impression, entre... le marketing est-il vraiment à l'origine de la contre-culture, ou vice-versa, c'est dur à délimiter. Autant il y a des espaces qui s'ouvrent pour la musique populaire, mais d'où ça vient, est-ce que c'est le marketing qui l'y a amené ou pas, ça ouvre des espaces où les ados et les adultes quand même s'organisent entre eux pour créer des...
Ouais, carrément, moi, je crois, du coup c'était important pour moi de reparcourir cette histoire, parce que en fait, comme on a l'argument un peu facile, un peu moi je vois ça séduit même des gens avec qui je discute, qui vont faire des choses dans Audimat et qui me disent ouais, mais tu vois, en fait tout ça c'est du bullshit, c'est des labels qui jouent avec des images contre-culturelles, mais en fait c'est des personnes qui ont aucun problème dans la vie et tout, tu vois, c'est quand même des choses qui viennent assez vite. Et donc, du coup, ça les conduit à abandonner, à jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, quoi, et à abandonner complètement cet idéal. Et du coup, moi, pour moi, c'était une manière aussi de dire, en fait, on ne devrait pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on peut faire la part des choses entre le fait que ça a été vachement instrumentalisé dans une logique commerciale bourgeoises, etc. Et qu'en même temps, ça a été une manière de nommer, un peu comme ce que dit Ratcharge dans l'article sur le site communisme, en fait, des formes de vie ou des rapports à la culture, etc., qui en fait, on peut très bien dénoncer la part de cynisme ou la part d'idéalisation de ça, mais on est obligé de reconnaître que en fait, ça a créé des formes de vie et ça a créé même au minimum des désirs et des aspirations à une société différente, voire, comme montre Alex, des pratiques d'entraide concrètes en termes de défense de lieux autonomes, etc. Donc, je pense que pour moi, c'était vraiment un truc dialectique, quoi, de vraiment d'aller choper la critique qu'on faisait et pour montrer qu'en fait, on peut la prendre en compte tout en maintenant en fait une forme d'attachement ou une forme de en profiter justement pour préciser ce qu'il y a d'important dans ce, on va dire, dans le discours contre-culturel, quoi.
Ouais, mais sans vouloir trop spoiler du coup ton article, il y a quand même deux idées moi que j'ai après. Enfin, ouais. Il y a encore deux petits points qu'on pourrait aborder, je pense. Tu fais un glissement en prenant l'exemple du mouvement contre les retraites. Et tu prends comme exemple justement de y a-t-il ou pas un fossé entre ces générations ? Et tu peux nous en parler un peu.
Ouais, glissement, c'est vraiment le c'est vraiment le mot, quoi, parce que. En fait, je pense qu'effectivement, je me suis aperçu que le même genre de question s'était posé autour de moi au moment du mouvement des retraites, parce qu'en fait, il y avait des personnes plus jeunes avec qui j'ai discuté et qui me disaient, en fait, nous, les retraites, on n'en aura pas, donc en fait, c'est votre problème, et ça nous fait chier en plus que vous nous moralisiez en disant qu'en fait, il faut qu'on se batte ensemble là-dessus, parce qu'en fait, déjà, nous, on va pas en avoir, et en plus, il faudrait qu'on prenne des risques pour défendre ce truc-là. Voilà. Et donc, du coup, là, je me disais, il y a vraiment une espèce de frontière dans la génération. Parce que d'un autre côté, même dans la mienne de génération, il y a plein de gens qui n'allaient pas avoir de retraite. Mais en fait, on voyait ça comme un truc. Enfin, pendant le mouvement, au début, il y a les syndicats un peu classiques qui ont défendu des mots d'ordre qui correspondaient à des gens qui avaient des carrières. Très classique et tout, mais il y avait aussi plein de gens qui voyaient bien que c'était en fait que c'était une lutte qui pouvait fédérer des personnes à travers des professions et des enjeux assez différents en termes de, par exemple, de droit au temps libre ou de droit à pas crever au travail ou des choses comme ça, et que ça dépassait du coup l'enjeu de qui allait avoir une retraite et à quelle hauteur, et que du coup c'était une bonne lutte à investir pour ça. Mais bon, du coup, en tout cas, il y avait cette espèce de faille entre générations. Du coup, ça me permettait de poser la question de savoir, d'un point de vue très matérialiste, est-ce qu'on peut dire que effectivement les jeunes en France, par exemple, sont dans une situation économique, si on prend de manière générale, pire que leurs aînés. Et en fait, j'ai essayé de répondre à ça de manière relativement précise en montrant les deux mouvements contradictoires. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend en général, c'est le cas. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on a des chances d'être pauvre et précaire, quoi. Et en même temps, ce qui est particulier, c'est qu'il y a plus de transmission d'héritage que jamais. Donc au sein de la classe, enfin on va dire au sein de la génération, ou au sein des personnes... alors jeunes, tout dépend où on met les limites, quoi, mais... Je veux dire, pour la situation actuelle, au sein d'une certaine jeunesse, il y a de plus en plus de... La bourgeoisie jeune se renforce aussi. et les inégalités, du coup, se renforcent aussi au sein de cette classe-là. Alors bon, c'est un peu un glissement, ça paraît un peu un pas de côté. Mais du coup, ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'en fait, la musique, c'est quand même... Elle va incarner ou elle va répondre d'une manière ou d'une autre à ces questions de rapport entre les générations, parce que finalement, si on a dit que si on associe la musique à la contre-culture et les musiques populaires à une musique de jeunes, c'est parce qu'en fait il y avait un élément de différence des désirs entre une certaine génération et la génération de leurs parents, ou alors même c'est une musique qui explicitement, par exemple, mettait en question l'autorité, mettait en question les institutions dominantes, mettait en question l'idée des parcours de vie tout tracés, par exemple. Et donc je me disais, en fait, c'est intéressant de voir ces différences entre générations aujourd'hui pour voir dans quelle mesure la musique elle va traduire ça, ou au contraire, même elle va proposer des manières de dépasser ça. Et donc, du coup, j'ai essayé de parler un petit peu de la manière dont ça permet de lire la musique, et par exemple de se dire que du côté des, on va dire, des boomers ou des générations adultes plus anciennes, etc., tout ce qui est un peu émission de télé autour de comment ça s'appelle cette émission, j'ai oublié, N'oubliez pas la chanson, enfin des trucs, en fait, où on dit que, en fait, en gros, c'est les boomers qui présentent les chansons avec lesquelles et elles ont grandi et qui invitent la jeunesse à communier autour de leur propre répertoire. Bah, c'est une manière de nier le fait que, voilà, plus en France, plus on est jeune, plus on a de chances d'être pauvre. Donc c'est nier le fait qu'il y a des différences, qu'en fait on peut pas communier autour des mêmes répertoires parce qu'en fait les expériences elles ont changé. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que du côté des jeunes, il y a, entre guillemets, enfin du côté des musiques appréciées ou qui sont associées à une certaine jeunesse en ce moment, il y a des rapports au temps ou aux différentes cultures générationnelles qui sont assez différentes et qui, par exemple, sont plus du tout dans l'idéalisation ou la fétichisation de l'adolescence. Soit parce que, dans les extrêmes, soit parce que c'est complètement décroché de la question des âges de la vie et c'est une musique qui cherche plus du tout à se poser comme la rébellion ou les sentiments romantiques de l'adolescence, etc. Soit parce que, en fait, elle est tellement focalisée sur des micro-expériences du temps que, en fait, la question générationnelle, elle a été réduite par un truc beaucoup plus dans le présent et dans l'intensité du micro-présent. Alors, bien sûr, j'ai choisi des exemples. Donc là, je parle un peu de morceaux de rap plug ou de Jersey Club, enfin, ou de footwork. Donc, bien sûr, je choisis les exemples qui me permettent de montrer des tendances comme ça, et ça concerne pas du tout, l'idée, c'est pas du tout de dire que la musique d'aujourd'hui, dans son ensemble, elle représente dans son ensemble ses relations entre les classes d'âge et les classes sociales, mais c'est aussi une manière de montrer, je pense que c'était aussi une manière pour moi de montrer que, en fait, la musique, elle construit les séparations et les proximités entre les personnes, ça fait qu'on se sent proche les uns ou les unes des autres ou pas. Et de la même manière que sur des sujets politiques, on construit des fois parfois des différences artificielles ou alors des proximités artificielles. Et que du coup, je pense que c'était important pour moi parce que je pense que je trouve que la musique, c'est super important et que des fois, on sépare, soit on sépare la musique de la politique, soit on dit que le lien entre les deux, il est un peu difficile à trouver. Donc je voulais montrer qu'en fait, pour moi, c'est important parce qu'en fait c'est ce qui fait qu'on se sent proche ou pas, en termes de est-ce qu'on est concerné par la précarité ou la pauvreté, en termes de à quoi on aspire comme rapport au monde, est-ce qu'on se sent plutôt adulte ou est-ce qu'on se sent plutôt ado, est-ce que c'est s'il y a des partages importants entre les classes d'âge, etc.
Effectivement, c'était un dernier point que je voulais soulever avec toi sur cet article, c'est tous ces nouveaux usages et concepts autour de la temporalité. Et je pense effectivement il y a quand même beaucoup de nouveaux styles qui sont apparus, je sais pas, depuis le début des années 2000, quoi, qui redéfinissent un peu tout cet aspect temporel de la musique. Donc bon, il y a eu le breakcore avant, des choses comme ça, mais depuis, voilà, je trouve qu'il y a plein de nouveautés qui se sont faites, autant l'hyperpop dont tu parles un petit peu, le footwork, voilà, dont tu m'as parlé. Peut-être tu as quelques références ou quelques, tu peux élaborer un peu plus sur,
ouais,
sur ça.
Bah ouais, en fait, niveau référence, je parle de Queen, qui est un QI2N, qui est un producteur Jersey Club. Je parle de DJ Rashad. Je parle de Playboi Carti. En fait, c'est un truc. Bon, moi, c'est vraiment c'est des trucs qui me parlaient déjà un peu, la question du rapport entre la musique et le temps, à travers évidemment des trucs comme DJ Screw qui ralentissait les morceaux de rap. De Houston, mais comment dire, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est un peu compliqué, mais en fait le rapport à la musique, c'est aussi un rapport à l'expérience du temps. On écoute de la musique pour ralentir le temps, pour l'intensifier, pour jouer avec nos angoisses et tout ça, enfin, qui sont aussi des angoisses du temps qui passe trop vite ou trop lentement et tout ça. Et donc je me dis, en fait, si on voit la musique comme une espèce de technologie du temps, on peut se dire que, voilà, la musique, c'est une manière de jouer sur le rapport au temps lui-même, pour traduire nos expériences ou pour les modifier. Et de ce point de vue, en fait, il y a plein de manières de le faire, quoi. Et Donc je propose quelques pistes dans l'article, mais j'aimerais bien en faire. Faudrait que je développe ça en fait, parce que pour l'instant c'est juste des pistes un peu balancées comme ça. Mais par exemple, il y a l'album de Lil Yachty, qui en fait est un rappeur qui faisait plutôt une espèce de trap pop. Et en fait, là, son album, il est hyper inspiré par le rock psychédélique années 70. Et je trouve que le fait d'être dans deux époques à la fois, moi j'ai appelé ça anachronisme stratégique, c'est-à-dire qu'il fait vraiment exprès de faire comme si on pouvait plaquer l'ambiance des années 70 sur maintenant. Ça veut pas dire que ça a un seul sens univoque, mais en tout cas, typiquement, ça brouille complètement le côté nostalgie réactionnaire ou le côté on va juste être dans l'excitation du futur, parce qu'il y a eu aussi une grosse tendance un peu de droite accélérationniste dans les milieux musicaux ces dernières années. Donc par exemple, si on prend Lil Yachty, en mélangeant les temporalités de manière comme ça, enfin en faisant cet anachronisme stratégique, bah en fait il nous fait faire complètement un pas de côté par rapport aux tendances un peu à la nostalgie où c'était tout toujours mieux avant, ou alors la tendance au futurisme un peu genre oui c'est cool, les technologies vont arriver, les robots vont travailler à notre place et ça va être la nouvelle utopie, pour caricaturer un peu. Mais il y a aussi le fait, sur DJ Rashad, moi je m'étais appuyé sur un truc de Mark Fisher qui parlait de temps qui bégayait comme ça, et je me dis ouais, en fait quand on écoute du footwork, c'est d'abord une musique sociale à Chicago qui permet de danser, de se retrouver, etc. Dans les communautés noires et tout, mais je pense que si ça a eu un succès plus général et mondial, y compris autour de publics qui dansent pas, par exemple, cette musique, c'est aussi que cette impression que l'histoire bégaye, en fait, elle est traduite dans les morceaux eux-mêmes, et qu'en fait, on a du mal à se projeter vers l'avenir, on n'a pas envie de revenir vers le passé. En même temps, le présent, il n'y a plus forcément une joie de l'intensité du présent, parce qu'en fait on sent que elle peut être, cette joie en fait elle se fait sur un fond de violence et d'injustice et tout, et aussi des fois on est dans des micro expériences nerveuses, je veux dire les gens, enfin nous, tu te retrouves un peu bloqué sur ton téléphone, un peu dans un état de saturation cognitive et tout ça, et donc la musique en fait des fois elle traduit aussi ce truc là. Alors moi, ce qui m'intéresse de juxtaposer ça, Lil Yachty, DJ Rashad et tout, c'est de montrer que voilà, il n'y a pas, quand je dis nous, on a cette expérience du temps, bah, y a plein d'expériences contradictoires, et les différents styles de musique viennent à la fois l'incarner, la retravailler et tout ça. Mais je pense que c'est important parce que ça permet de comprendre pourquoi elle résonne avec nous à un moment donné, quoi.
Seconde coupure musicale avec un morceau footwork d'un artiste dont on parlait dans l'entretien, DJ Rashad, en featuring avec DJ Spin et Danny Brown, pour un morceau sorti sur le label Hyperdub en 2015. Ce morceau se nomme Dubby.
I don't know about where you're from, but this is how my hood works. shine ain't footwork. That footwork, that footwork, that footwork.
À aborder justement ces sujets plus modernes de technologie d'ailleurs, et ça tombe bien parce que tu as sorti un livre récemment qui s'appelle, enfin récemment c'était en 2021,
ouais 2021 ça commence à
faire, qui s'appelle YouTube, les métamorphoses de la musique. C'est sorti sur les éditions INA,
ouais, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, ouais.
Et c'est d'ailleurs issu d'une thèse que tu as soutenue autour de 2018.
Ouais, exactement.
Okay. Mm. Donc voilà, tu parles principalement de YouTube et de son fonctionnement. Une brève présentation ou direct, tu peux nous parler de, aussi de bah voilà, qu'est-ce que YouTube a révolutionné, quelles limites ça a amené.
Ouais, bah en fait, juste je pense que la meilleure manière de contextualiser le bouquin, c'est de dire que en fait, bah moi j'étais pas à l'aise avec la manière dont dont les plateformes étaient en train de devenir le centre de la culture musicale, et même pas seulement de l'économie, c'est-à-dire que bon, il y avait plein de discours pour dire bah voilà, ça va tout changer à l'économie de la musique, mais en fait même, tu vois, moi j'étais plutôt dans ce truc d'écriture, d'écoute et tout, et en fait les gens commençaient à plus parler que de vues et que de plateformes, et je trouvais ça dingue, je me disais mais c'est pas, enfin c'est juste des outils quoi, enfin donc qu'est-ce qui fait que qu'on leur confère autant d'importance. Et donc passer un peu la première réaction comme ça, un peu instinctive, machin, je me suis dit bah en fait je vais juste étudier concrètement comment elles se sont imposées, et puis comment elles fonctionnent, qu'est-ce que c'est, en fait se dire bah si on dit que ça change et que c'est si important, pourquoi, à quel endroit ça joue quoi. Donc j'ai étudié, en fait j'ai regardé l'histoire de YouTube sur 10 ans et la place qu'il prenait la musique, qui a été assez différente au fil du temps en fait. Mais bon, comme pas mal d'autres plateformes, c'est le truc important, c'est que la musique c'était pas du tout leur projet initial. C'est un peu un truc, mais en même temps c'est ça qui a beaucoup participé évidemment avec YouTube au succès du site. Et j'essaie de montrer aussi comment les formes de la musique elles ont un peu évolué au fil du temps, c'est-à-dire qu'au début il y avait à peine du son dans les vidéos, ça permettait d'expérimenter un peu sur des effets sonores, ou plutôt au début les choses qui se passaient c'était des trucs de presque de culture folk quoi, ou de culture médiatique d'autres époques, qui on mettait des vieux clips où on chantait des comptines tout en dansant, enfin il y avait un côté un peu comme si on retrouvait un peu le côté populaire au sens folk, des musiques populaires, et pas seulement la musique du marché ou la musique qui se vend, Mais le fait que la musique elle a une place dans nos vies quotidiennes, qu'on se chante des chansons entre nous, qu'on danse dessus et tout. Et ça, c'était un peu une première phase. Et puis après, évidemment, il y a eu des partenariats. En fait, assez vite, il y a eu des partenariats avec les majors du disque et qui voulaient pas trop y aller. Mais du coup, YouTube a proposé une espèce de nouveau modèle, en fait, qui est quand même assez spécifique à YouTube, avec l'idée que, en fait, plutôt que de juste vendre ou distribuer des œuvres existantes, en fait, YouTube allait organiser le contrôle de l'usage de la musique dans tout un tas de formats vidéo, etc. Donc, plutôt que de simplement accéder à un catalogue de musique déjà existant sur YouTube, on peut monétiser le fait que la musique elle est utilisée dans n'importe quelle vidéo, y compris une vidéo d'humour, de danse ou quoi que ce soit. Alors, c'est un truc qui s'est un peu, qui est devenu un peu moins visible dans ce que YouTube met en avant aujourd'hui, parce que il y a eu la concurrence avec d'autres sites de streaming. Donc, il y a YouTube Music qui est venu ressembler un peu plus à une plateforme de streaming traditionnelle. Mais il y a cet aspect. Et en fait, moi, le truc, c'est que comme j'avais un label, je me demandais beaucoup, comment YouTube pouvait ou risquer de déplacer le rapport des musiciens à leur travail. Et donc, même si c'est jamais... Je suis quand même des fois un peu... c'est pas que je suis relativiste, mais je montre qu'en fait, il y a un discours qui est tenu, il y a des normes qui sont proposées, mais c'est pas comme si YouTube allait vous chercher pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Et en fait, c'est presque pour ça que c'est plus pernicieux. C'est-à-dire que ça met des normes dans la culture, et puis au bout d'un moment, on se retourne et tout le monde est en train d'essayer d'optimiser ses vues. Et en fait, tout le monde l'a fait presque... en se sentant obligé de le faire, mais c'est assez différent. Je montre que c'est assez différent du modèle à l'ancienne où c'était le patron de la maison de disque, ou même du petit label indé, qui dit « Ouais, quand même, il faudrait que tu fasses ça, etc. » Donc j'essaie de préciser un peu tous ces discours qu'il y a eu sur YouTube, mais aussi autour, sur l'idée qu'il fallait prendre sa propre carrière en main, qu'on pouvait rencontrer le public directement sans intermédiaire, mais qu'en échange, il allait falloir travailler à tout optimiser en permanence. Et avec ce truc aussi un peu exponentiel, qui construit une économie un peu différente des économies de la musique indépendante que moi j'avais pu connaître, enfin indépendante entre guillemets, mais où tu sais que tu, par exemple, tu fais un. Tu cherches des passages en radio indé ou underground, tu tires un disque à un certain nombre d'exemplaires en essayant d'avoir un retour sur investissement. En fait, là non, t'as un nombre de vues et t'essaies de l'augmenter indéfiniment en espérant que dans la concurrence générale pour la visibilité. Il va se passer quelque chose. C'est pas du tout les mêmes temporalités ou les mêmes logiques de travail. Ça veut pas dire que le truc d'avant était idéal du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même moins la main sur les conditions, on va dire, de la distribution et de la promotion de la musique en tout cas dans les milieux de la musique indépendante. Après, ça demande des études comparatives et tout ça, mais moi, c'est un peu ça que je voulais creuser, quoi.
Ouais, c'est sûr qu'au niveau des producteurs de musique, ça a vraiment changé la donne. Et aussi, autre chose, c'est au niveau des usagers, parce que du coup, ça a un peu, d'une certaine manière, permis aux usagers de reprendre la main sur les choix du fonctionnement. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle part qui a été donnée aux usagers dans ce système-là. Comme tu disais, c'est assez pernicieux entre une sorte de partage gratuit, du partage entre usagers qui est permis, mais aussi ça construit un nouveau système un peu commercial, voire donc entrepreneurial.
Ouais, en fait ce qui est fou, c'est que là je suis en train de retravailler un peu là-dessus, parce que en fait j'ai pas trop pu aller au bout de ça dans le bouquin, mais... En fait, avant que YouTube n'arrive, il y avait quand même des projets. Il y avait déjà eu tout un. Moi, ça a été super important pour moi. Il y avait tout ce truc autour du peer-to-peer. Donc, il y avait déjà une logique de partage massif de la musique enregistrée, y compris commerciale et tout ça. Avec tout ce discours pour dire que en fait, ça allait être dangereux pour les musiciens qui allaient plus pouvoir vivre de leur musique, etc. Bon, en fait, ce serait marrant de comparer entre les paniques de l'époque et ce que c'est aujourd'hui, l'argent qui est gagné aujourd'hui avec les plateformes de streaming. Finalement, je pense que le modèle légal, il est limite... Si on estime que le piratage illégal a fait du mal à la musique, je sais pas si on peut dire que le modèle qui s'est construit avec les plateformes a beaucoup amélioré la situation. Et je pense plutôt non. Mais oui, donc du coup, il y a toujours eu une réflexion. Enfin, en tout cas, depuis le peer-to-peer, il y a une réflexion sur... qu'est-ce que ça veut dire que toute la musique soit accessible gratuitement et qu'on construise des formes de partage autour de ça, que ce soit les blogs, les forums, les chats, enfin, qu'il y ait une association entre libre circulation de la musique et forme de micro-échange culturel, etc. Et je sais aussi qu'à un moment, il y avait des gros débats sur la licence globale et que c'est un truc qui a failli passer, en fait, parce que ça avait été chiffré. Et c'était défendu par pas mal de voilà, parlementaires réformistes classiques et tout, qui pensaient que c'était une bonne idée. Et c'est un peu une extrémis sous l'influence du lobby des majors que ça s'est pas passé, mais c'était un modèle qui était qui apparaissait assez cohérent à même des technocrates en fait. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que du coup, cette espèce d'utopie de l'échange de musique et de l'échange autour de la musique, aujourd'hui, elle est incarnée par les plateformes comme si ça aurait pas pu exister sans elles. Et je pense que c'est important de se dire qu'en fait elles ont un statut finalement c'est un peu comme dans d'autres domaines, mais en fait toute cette richesse de circulation de la musique et d'échange, elle est faite par les musiciens, les musiciennes et par les auditeurs, les auditrices. Les plateformes finalement, elles apportent assez peu de valeur ajoutée, je pense, dans ce truc là et je pense que c'est un peu ça la ligne de fond derrière mon travail sur YouTube, c'est de relativiser ça et montrer tout l'apport qui vient en fait des internautes, des webmasters qui sont fait pomper par YouTube ou d'autres petites entreprises du logiciel. En fait, le travail de YouTube et de Google, c'est surtout de construire un monopole en optimisant tout en permanence, mais la part de créativité, même en termes de logiciel, elle est relativement faible. Et on peut dire même les modèles un peu qui sont assez plébiscités à juste titre, je pense, de recommandations et tout ça. En fait, ces trucs-là, ils existaient sous une forme ou une autre ailleurs. Il n'y a pas de spécificité aux plateformes à ça. Et on pourrait très bien d'ailleurs imaginer les récupérer. Et on pourrait très bien imaginer communiser les plateformes de streaming plutôt que les laisser à ces entreprises qui, en fait... En fait, on a des objectifs assez différents de ceux de valoriser la culture musicale, que ce soit en termes purement économiques, c'est-à-dire redonner une part de leur profit aux musiciens, aux musiciennes, ou même faire en sorte que la musique, je sais pas, qu'on sache d'où vient la musique, qu'on puisse se représenter sa valeur culturelle, qu'on mélange pas les époques, ou même qu'on puisse l'écouter de manière différenciée selon ses intérêts. C'est des choses qui sont permises par ces plateformes, mais je pense qu'on pourrait faire mieux et plus loin dans d'autres conditions. Et juste un dernier truc là-dessus, moi, c'est vrai que moi j'ai travaillé sur YouTube, mais je veux dire, YouTube ça appartient à Google, qui travaille avec le gouvernement américain sur d'autres projets, et Spotify, ils ont des actions dans les drones israéliens, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est la musique, c'est juste c'est une petite partie d'une activité qui est d'abord une activité d'accumulation de capital et voire de collaboration stratégique sur des trucs moi je trouve que ça pose question, quoi. Quand, si on va écouter des morceaux de punk sur Spotify, bien sûr c'est pas pour moraliser chaque pratique individuelle, mais qu'on sache que ça fait partie de ça, quoi, et qu'on se dise pas ah ouais super, grâce à ces logiciels j'ai enfin accès à toute la musique gratuite. Surtout que voilà, dans plein de scènes on avait trouvé des moyens de partage de musique plus intéressants, et pour les musiciens et pour les musiciennes je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire pour se battre pour autre chose que récupérer plus de centimes de Spotify ou d'une taxe streaming, et revendiquer des formes de d'intermittence élargie par exemple, travailler à faire en sorte que que les conditions de vie des musiciens et des musiciennes dépendent pas des revenus du droit d'auteur sur des plateformes de streaming, parce que ça sera toujours hyper inégalitaire, il y aura toujours une énorme masse de musiciens et musiciennes qui s'y retrouveront jamais. Donc je pense pas du tout que ça soit souvent on parle de modèle économique des plateformes de streaming, et pour moi c'est pas du tout un modèle, c'est un truc qui marche parce que il y a trop de capital et que c'est des projets qui arrivent à lancer des cycles de vente d'actions et de valorisation boursière pendant certains cycles de temps. Mais en fait Spotify est en déficit structurel, les patrons de Spotify ils en ont un peu rien à foutre de la musique, et tous les 6 mois ils essaient de switcher vers le podcast ou vers la vidéo. Et en plus, on risque encore de perdre, si nos collections sur ces logiciels, on risque encore de tout perdre. Et d'avoir des. Bah, comme ça arrivait avec les blogs, où moi, c'est vrai que j'étais vachement dans la culture remix et tout ça. Il y a plein de trucs auxquels on n'a plus du tout accès maintenant parce qu'on faisait un peu confiance à des liens et à des bouts de serveurs en ligne et tout ça.
Ok, à très beau message, je dirais, de réduction des risques dans le milieu.
Ah ouais, super, je vais prendre cette formule, c'est exactement ça. Réduction des risques.
Et voilà, ça nous sensibilise au risque et danger de l'utilisation du numérique dans la musique. Et voilà, qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans ces milieux. Écoute, merci Guillaume.
Bah, merci beaucoup à toi pour cette discussion.
Et longue vie à Audimat. On espère encore plein de numéros.
Ouais, on travaille déjà sur le suivant et là sur le prochain bouquin qui sera sur les scènes de rap régionale américaine, un bouquin de Mohamed Magassa et Nicolas Payon.
Yes. Il y a aussi un peu l'anthologie de Mark Fisher qui devrait tomber à un moment donné.
Ouais, carrément, on a traduit, c'était un énorme boulot. Il y a Julien Gazzini, un traducteur avec qui on bosse, là, qui a traduit toute l'anthologie de ses posts de blog. D'ailleurs, c'est pas mal parce qu'il y a il y a plein de sujets différents. Ça va de la littérature à la musique en passant par la politique anglaise alors, je vais pas dire des 20 dernières années parce que ça fait quelques années qu'il est mort maintenant, mais de toute la période, disons, 2020, enfin 2016, quoi. Ouais, gros projet, super bouquin.
Ouais. Merci.
Merci à toi.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Comme chaque mois, Musique en lutte met à l'honneur un texte qui parle de musique. Et cette fois-ci, on a décidé de vous parler du fanzine Ventoline, pour les citer dans leur édito. Et dans leur présentation, c'est un fanzine qui est né à la fois d'un enthousiasme quotidien pour ce qui se rapporte à la musique et d'une véritable lassitude face à la quasi-absence de paroles féminines autour de ce vaste sujet. C'est un fanzine complètement auto-diffusé, auto-édité, qu'on peut trouver dans les bons repères une à deux fois par an. Et en attendant la sortie du numéro 6, qu'on espère pour début 2024, on a décidé cette fois-ci de vous lire un extrait d'un article qui est publié dans le numéro 5, qui est sorti en mars 2023. L'extrait que je vais vous lire est tiré d'un texte qui s'appelle « Enough Respect is Due » et lui-même une traduction d'un article de Amanda Upman, une Britannique qui a publié dans la revue féministe Spare Rib en 1985. Upman y rapporte des paroles de femmes DJ et MC reggae parmi les pionnières du genre à Londres dans les années 80. À une époque où de plus en plus de femmes percent sur les ondes radio et dans les discothèques, notamment grâce au regain d'intérêt pour le reggae et la culture DJ, on peut distinguer deux styles de DJ à l'œuvre. Les opérateurs, qui tiennent les sound systems, jouent les disques, assurent les transitions entre les morceaux, et les MC, qui improvisent, blablatent, chantent en rythme au son du dub envoyé par les opérateurs et scandent par intermittence des instructions, comme balance le son ou relance le disque. Comme l'explique si bien Sista Kulcha, tenancière du Kulcha Posse, les origines du DJing sont bien antérieures à celles du rap et prennent racine en Jamaïque au début des années 70. Très vite, l'idée fila jusqu'au Royaume-Uni. Mais ce n'est que récemment que les femmes ont pu commencer à investir cette scène. Ranking Anne, la plus connue des femmes DJ et pionnière de la discipline en Angleterre, commença dès 1978 à écrire des paroles pour accompagner ses dubs. Quittant Wolverhampton pour accompagner le sound system de son frère à Londres, elle fit un tabac en prenant le micro. Quelques années plus tard, en Jamaïque, Sister Nancy rencontrera le succès qu'on lui connaît. Puis au début de la décennie 80, suivirent une génération de chanteuses délurées et talentueuses. Lorna G, Cinderella, Lady Sherry, Olive Rank, Pepi, dont beaucoup jouissent encore d'un grand succès, parcourent le pays et enchaînent les dates à l'international. Qu'il semble loin, le monde musical ronflant mis en avant par la BBC. Nul doute que ces femmes ont beaucoup plus en commun. Déjà, la confiance en soi et le culot. Et il en faut une sacrée dose pour mettre les pieds dans cet univers bien gardé de la gente masculine, tout en s'exposant publiquement. Janice Long, la seconde femme à avoir rejoint Radio One et la première à y avoir son émission quotidienne, mais aussi Ranking Miss P, première femme noire sur la fameuse station dont les merveilleuses émissions 100% reggae peuvent être entendues le samedi soir, disent ne pas rencontrer de problème au sein de la radio. Tu es aux manettes, nous explique Miss P. Donc on te respecte pour ça, il n'y a pas de place pour la condescendance. Cependant, elles reconnaissent que la situation est différente en dehors du studio. Pour Janice en particulier, le milieu ne lui fait pas de cadeau. Comment se fait-il que tu te retrouves à Top of the Pop alors que tu n'es même pas jolie, s'entend-elle dire. Jamais on ne pourrait dire ça à un mec. Miss P fait face au ressentiment ambiant, ignorant ses collègues jaloux ou paternalistes. Ils viennent te chercher pour jouer des disques, puis te demandent si tu auras envie de te servir des platines. J'ai envie de leur dire, bah, à ton avis, je suis venu pourquoi imbécile me mettre à poil. Et c'est sans parler du harcèlement permanent. Et ce mec qui te met les mains au cul, c'est insupportable. Malgré tout, s'il y a bien une chose qui l'encourage, c'est la solidarité qui s'opère entre toutes les femmes de la radio et qui l'a poussé à ne rien lâcher. Côté MC, comme Ranking Anne l'explique, les sound systems sont très largement animés par une culture machiste. Beaucoup d'hommes ne voient pas d'un bon œil cette nouvelle génération de chanteuses qui s'émancipe du chant sirupeux d'un lover's rock. Miss P et Sista Kulcha évoquent encore l'exploitation sexuelle comme artistique de trop nombreuses femmes par certains producteurs. Il aura évidemment fallu du temps, mais désormais les femmes ont redéfini leur propre forme d'expression à travers l'affirmation et l'acceptation de soi. Et voilà, c'est tout pour cet extrait. Donc encore une fois, trouvez Ventoline, achetez Ventoline, soutenez Ventoline et guettez le numéro 6 qui devrait sortir début 2024.
Et pour finir, avant notre rubrique événements, voici le morceau de Sister Nancy, Only Woman DJ with Degree.
She are the whole lady, can do it like I sister Nancy. Tell me say, who she are the whole lady, can DJ like I sister Nancy. Tell me say, I know any man can do it like me. Who I know any man can do it like me. Them off you come from the Jerry family. Tell me say, I sit on Sunday class, sit a class. And I your sister Nancy, and the teacher for the class.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité dans l'émission Musique en Lutte. Maintenant, nous sommes dans la rubrique Agenda. Donc demain, vendredi 29 décembre, aura lieu une déambulation en solidarité avec Gaza. Départ 17h30, métro Avron, Paris 20e. Le 6 janvier, une mobilisation Vérité et Justice pour dénoncer les deux attentats qui ont visé le mouvement des femmes kurdes à Paris en 2013 et 2022. Dénoncer également le manque de transparence des instances compétentes et du gouvernement français. Départ de la manifestation à 11h de la gare du Nord jusqu'à la place de la République où se tiendra un rassemblement. Le 6 janvier également se tiendra une soirée organisée par le collectif Saccage 2024 autour de la mobilisation contre les Jeux Olympiques et les Paralympiques d'hiver 2030 pour lesquels la candidature unique des Alpes françaises a été retenue. Une double peine après Paris 2024. Au rendez-vous se tiendra à 19h à la BAM, Bibliothèque Associative de Malakoff, 14 impasse Carnot à Malakoff. Le 13 janvier, après-midi et soirée de soutien à la coordination contre la répression et les violences policières, au programme de 16h à minuit, du roller sur de la musique, des concerts avec la fanfare Invisible, Utopie, Youth Avoider et Alex DJ Set, des ateliers pratiques, ateliers d'écriture aux prisonniers et prisonnières, paramétrage anti-répression des ordinateurs et téléphones et info-kiosque anti-répression. À 16h à la Parole Errante, 9 rue François de Berg à Montreuil. Le 17 janvier, le ciné de la Commune vous propose le documentaire Schkoun, un documentaire de Raphaël Bruyas. C'est qui les sauvages ? C'est la première question que se sont posées les habitants du quartier de Montréno à Saint-Étienne, choisi comme décor principal dans la série de Canal+, Les Sauvages. Un témoignage sur la représentation en quartier populaire. Soirée organisée par le groupe Commune de la Paris de la Fédération anarchiste à 20h à la librairie Publico 145 rue Amelot Paris 11e. Le 20 janvier, une soirée aubergine dub, entrée et bar à prix libre. Les recettes seront reversées à Schoolider, un collectif de soutien aux mineurs isolés, de 19h à 1h à l'aubergine 3000, 164 boulevard Gabriel Péri à Malakoff. Et pour le 31 décembre, il y aura des free parties autour de chez vous. Faites marcher vos réseaux et gardez les oreilles ouvertes pour les infolines. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission Musique en Lutte le 25 janvier. Portez-vous bien.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Liberté, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire 89.4. c'est Epsilonia. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, 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 Epsilonia,
Epsilonia, Epsilonia, pourquoi il y a de l'écho là? Pourquoi il y a de l'écho? Bon, je sais pas. Falloir qu'on règle ça. Pourquoi il y a de l'écho là? Non, mais il ne devrait pas y en avoir. Il ne devrait pas. Bonsoir, c'est Epsilonia qui commence. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM. Vous êtes sur Pinode, donc Pinodois, Pinodoise, Epsilonien, Epsilonienne. Bienvenue. Alors ce soir, une émission de Pas Noël. C'est pas papa. Pas papa. Pas papa, papa de Noël. Et une dédicace aussi à Anouk. Et à Fred Arana, dont c'est les anniversaires respectifs dans l'ordre. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a dans la besace? Bah, les trucs de Noël, hein. Hematic Sunset, Tom Rekion, ça je sais plus, Ralph Eowski, les Residents, hein, Santa Dog, un classique. Hop, Arika, Don Pauline, Melchior, ça c'est islandais, je comprends bien, Steve Stein, Karuna Kial, Péloquin et Sauvageau, The Decays, David Stoughton, on a plein de trucs en fait, waouh, ça va durer encore. Groupe 1850, je sais pas comment on dit en hollandais, hein. Peut-être du Glen Branca, pas sûr, je sais pas, on va voir. Les Bombay Ducks, Hybrid Kids, bien sûr le titre de l'émission, hein, Death May Be Your Santa Claus, album de Second Hands, Marisa Koch, on aura peut-être aussi... ce disque de, comment ça s'appelle, Tata Marianne Micetic, Clark Hutchinson, The Oymels, un grec, mais j'arrive pas à lire, là, c'est en grec, alors bon, on l'oublie, mais c'est super, Spontaneous Overthrow, et Arthur Brown. Voilà. Ah, il y a aussi Buffy Sainte-Marie, pourquoi pas, donc ça va être assez... psyché, fin 60s, début 70s, puis avec des incursions un peu plus récentes. Et voilà quoi, bonne écoute, 89.4 FM. N'hésitez pas, hein, il est toujours de bon ton de prendre votre carte de membre, comme ça, ça fait des sous pour la maintenance, remplacer le matos quand il est défectueux, etc. On compte sur vous. Donc pour ça, c'est à la rue Amelot, à Publico au numéro 145 de Laurier Amelot, ou sur Fédération Anarchiste, enfin Fédération, c'est quoi déjà, c'est Fédération Anarchiste.com, un truc comme ça. Et pour Epsilonia, c'est sur Blogger, voilà. Donc les playlists, tout ça, le podcast arrivera bientôt, dans quelques jours, en passant via le blog d'Epsilonia. Salut. Thank you.